שקיבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, ודימו כל השמנים.
Bonjour, rebonjour, très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler avec un invité qui, pour une fois, est dans les studios en face de moi. Bonjour, Isaac Barchuchat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Alors, on vous a eu souvent et on va commencer par vous présenter. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Vous êtes notamment, votre métier en tout cas, c'est d'être expert comptable.
Exact.
À Paris. Et vous pouvez nous présenter ce que vous représentez.
Alors, merci de me recevoir. Effectivement, c'est un plaisir de revenir sur ce plateau, bien sûr, de rencontrer les Strasbourgeois et Strasbourgeoises, pour lesquels j'ai une appréciation un peu particulière au vu de ma proximité familiale. Et au-delà de mes fonctions professionnelles, oui, j'ai le plaisir d'avoir quelques fonctions, on va dire, communautaires, notamment président du Mizrahi France. C'est un mouvement sioniste qui a vocation à relier les communautés en diaspora avec Israël, et en l'occurrence ici la France. Nouvellement élu au comité exécutif de l'Organisation Sioniste Mondiale, justement,
on va en reparler,
pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est cette grande maison, et élu récemment au Consistoire de Paris Île-de-France, il y a 2 semaines, fraîchement élu, et donc là aussi un lien fort avec les communautés. Et puis oui, j'ai eu le plaisir, surtout avec les Strasbourgeois et Strasbourgeoises, d'échanger souvent sur mes positions, puisque je suis le vice-président du Parti républicain américain en France. Donc, on représente les intérêts de la politique de M. Trump, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis en France, M. Kouchner, qui est venu il n'y a pas longtemps ici.
Exactement.
J'étais avec lui la semaine dernière. Voilà, et c'est de voir un petit peu comment, malgré ces circonstances dans lesquelles on vit depuis le 7 octobre, même si ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours, comment la communauté juive française réagit et quelles sont les perspectives à donner à tout ce qui se passe.
Alors, pour être franc avec nos éditeurs, on se connaît depuis 30 ans.
Ouais, même un peu plus.
On va donc se tutoyer pendant cette interview. Tu es président, tu m'as dit, de Mizrahi France. C'est quoi cette association? Pourquoi elle est née et qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, le Mizrahi existe depuis plus de 100 ans et a des représentations dans le monde entier. Son objectif, il est fondé sur 3 piliers. Le premier, c'est que si on veut mettre en avant la Torah d'Israël, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et donc, cela se conjugue bien évidemment en Israël, mais pas que, puisqu'en diaspora, on a des amoureux de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël et du peuple d'Israël.
Ça veut dire que si on n'est pas dans ces 3 principes-là, c'est difficile d'être membre de Mizrahi.
Non, ça veut dire qu'au contraire, quand on cherche à être au plus proche d'Israël, on est forcément amoureux de ces 3 piliers, et que Mizrahi met en avant ces piliers-là, mais parle à tous les juifs du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on peut être amoureux d'Israël, du peuple juif et de la Torah d'Israël, mais de le vivre différemment. On le voit bien, les milieux réformes, conservatives, libéraux, orthodoxes, modernes, orthodoxes. La vie juive est plurielle aujourd'hui dans le monde. Et donc aujourd'hui, c'est pouvoir, de manière apolitique, proposer aux différentes communautés dans le monde un lien très fort avec la mère patrie, c'est-à-dire avec Israël.
Alors, Israël, donc, on a bien compris qu'il y avait des ramifications dans tout le monde. Qu'est-ce que cette association fait, entre guillemets, dans le grand, la grosse association qui est l'Organisation Sioniste Mondiale?
Alors, tout le monde connaît Herzl et son rêve, qui s'est bien sûr exaucé avec l'installation de l'État d'Israël en 1948, mais qui existe depuis très longtemps, puisqu'on parle déjà fin du 19e siècle des différentes conférences qu'elle avait faites à Bâle ou ailleurs pour fédérer les communautés juives orthodoxes et non orthodoxes. Et donc, en son sein, l'Organisation Sioniste Mondiale a pour objectif de représenter tous les courants du judaïsme mondial.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que les juifs du monde entier ont des représentants dans leurs différents pays qui viennent siéger dans un congrès qui a eu lieu à Jérusalem il y a à peu près 2 mois, où toutes les questions juives sont débattues. Et aussi bien questions religieuses, questions politiques, questions aussi de philosophie par rapport à quelle est la posture à avoir avec les autres religions. Et l'idée est de pouvoir organiser, guider le judaïsme, pas en tant qu'État, puisque ça c'est le rôle de l'État d'Israël et la Knesset, mais le Congrès sioniste mondial, c'est la Knesset du peuple juif en soi, où qu'il soit dans le monde.
Concrètement, ça change quoi d'avoir cette organisation et par rapport à nous en France ou dans une communauté.
Alors, quand je vous parle, effectivement, vous n'arrivez pas forcément à trouver de point de liaison avec ce qui me paraît, moi, un juge strasbourgeois. Qu'est-ce que ça me dit? C'est en fait, cette organisation sioniste mondiale est à l'origine de l'agent juive, du KKL, du Keren Hayesod, de toutes les grandes participations. Vous avez aussi ici le concours du Tanakh, qu'on a aussi les Ulpanes, qu'on a aussi un certain nombre de programmes qui sont mis en place pour promouvoir ce sionisme, promouvoir cette idée d'Israël et du grand Israël, pour certains, mais en tout cas Israël surtout, et de pouvoir en tout cas parler à chaque représentation juive, où qu'elle soit. Et encore une fois, je le dis avec fierté, parce que je pense que c'est bien d'avoir une représentation générale. On a en son sein du Congrès plus de 1000 adhérents, 1000 représentants du monde entier, un tiers viennent d'Israël, un tiers viennent des États-Unis et un autre tiers viennent des restes du pays, des autres pays. Et on a de tout, on va dire vraiment de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de toutes les proximités et sensibilités religieuses, politiques et autres. Et là aussi, je pense que le Mizrahi, c'est pour ça qu'il s'inscrit dans ce schéma global, a un message à passer, puisque nouvellement, le président de l'Organisation sioniste mondiale, OSM, qui a été élu, et le président du Mizrahi, le rabbin Doron Perez, qui a perdu son fils lors du 7 octobre, et qui a été nouvellement élu. Donc ça aussi envoie un message, parce que le Mizrahi a réussi à faire cette jonction entre les religieux, les pratiquants, les non-pratiquants, les conservatifs, et puis ça fait partie du peuple juif, et c'est aussi ça que le message qu'on veut passer.
Alors, il y avait une convention de cette organisation il y a pas longtemps. Quand tu rencontres les autres personnes de Mizrahi ou de l'organisation, est-ce que les gens que tu rencontres, ils ont les mêmes problématiques que les juifs français, strasbourgeois?
Alors, il est évident que les juifs aujourd'hui du monde entier, et c'est très important de dire, surtout notamment chez les juifs américains et canadiens, qui n'ont jamais connu ce que nous on connaît en France depuis trop longtemps, cet antisémitisme, cette difficulté pour faire des études dans les campus américains, c'est évident qu'aujourd'hui, notre point commun, c'est l'élément le 7 octobre. Donc aujourd'hui, et c'est le point de rassemblement, c'est de dire, arrêtons de nous faire la guerre entre nous, parce que souvent les mouvements politiques ou les mouvements apolitiques, philosophiques, avec ce qu'on appelle des idéologies différentes, se faisaient la guerre. Et l'objectif de ce congrès,
j'ai pas compris ce que tu dis.
Ça veut dire qu'on était religieux, pas religieux, qu'on était conservatif, libéral, orthodoxe, moderne orthodoxe, on fait partie du même peuple. Et comme on l'a vu malheureusement pendant la Shoah, et on l'a vu encore maintenant 7 octobre, il n'y a pas de différence, quel que soit le niveau de religiosité. On fait partie d'un même peuple, et le but, c'est de rassembler. Et donc, le dernier congrès a été marqué, bien sûr, par encore des dissensions, parce qu'il en existe, et c'est ça le débat qui rend la richesse du peuple juif, mais aussi cette idée de pouvoir rassembler et d'unir le peuple juif, quel qu'il soit. Et je pense que Rav Doron Perez a promis ou a offert cette promesse à tous les partis politiques, apolitiques et autres autour de la table, pour leur dire, on va proposer quelque chose, un projet commun qui rassemble plutôt qu'il crée la division au sein du peuple juif dans le monde entier.
Comment, il y a des actions précises ?
Des actions précises, bien évidemment. L'un des points, c'est d'abord le dialogue. Souvent, on dit les orthodoxes, les religieux et autres ne veulent absolument pas parler aux autres. D'ailleurs, ils se sont dit sionistes, mais est-ce qu'ils le sont réellement? Qu'est-ce qu'on définit du sionisme? Les mouvements libéraux, à l'inverse, veulent que ce soit des femmes qui mettent la kippa, qui aillent prier au kotel devant tout le monde, des tefilines, etc. Donc, on est dans des extrêmes. Et de manière générale, la société, on peut le voir aussi aujourd'hui en France, elle tend vers des extrêmes. L'objectif, c'est comment ramener toutes ces extrêmes et toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, comme je le disais, autour d'une table pour discuter et trouver des intérêts communs pour le peuple juif en faisant, maintenant, toutes les actions et surtout en préservant le judaïsme, en préservant nos valeurs communes et protégeant les communautés où qu'elles soient.
Alors, on va parler un tout petit peu de l'organisation mondiale. Qui c'est qui siège dans cette organisation, mis à part Mizrahi?
Alors, bien évidemment, vous avez Chass, Eretz HaKodesh, Likoud, Yesh Atid, les réformes. Il y a des partis politiques et des partis non politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mizrahi n'est pas un parti politique. Il y a le sionisme religieux. Alors, on a des proximités. On a des proximités, mais pas forcément. C'est pas parce que vous siégez à l'Organisation sioniste mondiale que vous siégez automatiquement à la Knesset. Par contre, les règles et statuts internes font que ceux qui siègent à la Knesset ont de facto un siège, enfin deux sièges à l'organisation sioniste. Donc forcément, les partis politiques sont très présents. Mais plutôt que de rentrer dans des règles étatiques, comme on peut le voir à la Knesset, là on rentre dans des règles un peu abstraites, puisque c'est le peuple juif dans son ensemble. On a des juifs d'Ouganda, on a des juifs de Russie, on a des juifs de l'Europe centrale, de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec des juifs
mais
du monde entier.
Mais cette association-là, alors en fait... Il y a des discussions, il y a des congrès.
Ah ben, le congrès qui a eu lieu...
D'accord,
il y a...
mais comment vous faites pour faire, entre guillemets, appliquer vos propositions?
Alors, comme toute organisation, elle a, j'ai expliqué, des milliers d'adhérents qui sont représentés par un comité exécutif dont j'ai le plaisir de participer, qui représente les différentes voix de ces partis-là. Et il y a souvent des réunions où des débats sont apportés à l'ordre du jour et on essaie de s'assurer de ce qui a été déjà décidé en plénière, en congrès, soit appliqué, que les décisions qui arrivent au fil de l'eau soient appliquées. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est aussi...
Appliqué, ça veut dire que vous appelez les communautés, vous dites, voilà, on a discuté, on pense que ceci et cela, il faut
alors,
appliquer.
Le nerf de la guerre, ça a été aussi de dire que cette OSM a un budget, est doté d'un budget $1 milliard par an. Donc forcément, quand il y a des sous, là...
C'est le début d'histoire.
C'est le début d'histoire pour certains, c'est la suite de l'autre, c'est l'achèvement pour d'autres. Donc forcément, c'est elle qui va financer tous les projets qu'on peut voir à droite à gauche. Donc une communauté à Strasbourg qui a besoin d'un Oulpan, qui a besoin d'une aide ponctuelle pour envoyer des jeunes d'Akiba, peut-être faire un programme en Israël pour découvrir leur avenir, des médecins qui veulent faciliter leur équivalence, des gens qui ont besoin d'apprendre, on a parlé de l'hébreu, un rabbin qui a du mal à se faire former, une cantine cachère qui n'a pas de mur, enfin tout ce qui peut avoir un lien avec la communauté juive, quelle qu'elle soit. C'est le point d'entrée pour demander et du support, parce qu'ils ont des réseaux importants, et bien évidemment des sous, parce que c'est aussi le nerf de la guerre.
Combien vous êtes à Migratif France d'adhérents, à peu près?
Alors, en France, il y a 21 représentants pour à peu près 6000 adhérents.
D'accord.
Ce qui est peu, malheureusement, par rapport au nombre de juifs qu'on connaît en France.
C'est pas très connu non plus.
C'est justement l'une des raisons pour qu'on en parle aujourd'hui, mon cher Jean, c'est que, au-delà des élections qui ont lieu tous les 5 ans, je pense que tous les juifs de France devraient adhérer à cette fédération des organisations sionistes mondiales, parce que moi je représente Mizrahi, mais en France, il y a aussi une fédération qui, elle, représente, intègre toutes les représentations dont on a parlé, le Likoud, le Chas, le Retz HaKodesh, etc. Et chacun a des représentants. Le but, c'est de faire, encore une fois, remonter les problématiques locales, déjà pour la France, via cette fédération, et que cette fédération aille au niveau mondial pour taper du poing sur la table. Et
alors, là, comment tu expliques qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés à adhérer?
Bah, je pense que bon, il y a un vrai problème de connaissance, de communication aussi. Je pense aussi que
c'est pas connu en gros.
C'est pas connu.
D'accord.
C'est pas connu. Je pense que nous Français, par rapport aux Américains, faut savoir que en France, on votait 6000 juifs sur, allez, on va dire 500 000 de juifs en France à peu près. Aux États-Unis, 250 000 juifs. Alors vous me direz, c'est rien par rapport aux 8 millions qu'on dit aux États-Unis, ou à peu près. Mais quand même, 250 000 pour, dans le cadre d'une élection, c'est beaucoup plus honorable. Et c'est ça le problème que moi je veux ici dire, c'est que la France est mal représentée en Israël, mal représentée à l'international. D'abord parce qu'en niveau des langues, et là je peux vous le dire parce que moi je suis polyglotte, il faut absolument parler l'hébreu et l'anglais dans la vie de tous les jours. Déjà en tant que juif, il faut parler l'hébreu. Et l'anglais aujourd'hui est devenu indispensable. Et souvent, les Français ont du mal. Donc, forcément, ils ne sont pas forcément mis dans les petits papiers. Et puis, voilà, la France est dotée, je pense, d'une diversité aussi spécifique, mais qui est aussi diversité comme tous les autres, avec des partis religieux, des partis non religieux, des gens qui sont pratiquants, des gens qui ne sont pas pratiquants. L'objectif, il est effectivement de pouvoir réveiller en son sein, pas uniquement ceux qui étaient jusqu'à présent sionistes et qui, forcément, le savaient et connaissaient ce canal, mais tous les autres juifs, parce qu'aujourd'hui, être sioniste, c'est pas forcément cette idée qu'on avait avant, c'est aujourd'hui une idée de protection du peuple juif, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des juifs du monde entier pensent à faire leur allié un jour.
La communauté juive en France est en danger?
Écoutez, je vais prendre la casquette d'élu de la République, allez, mais surtout de juif que
bon,
je suis.
Vous êtes adjoint
adjoint
au maire d'un...
Exactement, ville à côté de Paris.
Voilà.
Écoutez, c'est très compliqué de vivre en tant que juif en France. On vit des moments difficiles. Il y a des échéances politiques qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois, qui vont peut-être donner une nouvelle donne et peut-être un nouvel espoir.
Localement.
De quel genre? Peut-être que ceux qui nous aimaient pas jusqu'à présent, qui poussent, ils poussent, comme par exemple l'extrême gauche, peut-être va enfin revenir à sa place, une place de rien du tout, parce que effectivement, elle génère un sacré bazar dans la société. Pas que politique, qui génère des tensions énormes. L'immigration, les sujets qu'on connaît, la défense du peuple juif et des valeurs, c'est devenu très difficile. J'ai pas besoin d'élaborer sur ça, je pense que tout le monde en conviendra. Non, moi le message, c'est un message d'espoir. c'est de se dire, au même moment
où vous pouvez... T'as pas à vous dire ma question. Bah, est-ce qu'on est en danger ou pas ?
Je vais répondre. Ceux qui souhaitent partir, on doit, nous tous, avoir la responsabilité de faciliter ce départ. Ceux qui souhaitent rester, on doit, nous tous, pouvoir les protéger. Et aujourd'hui, dire qu'un juif de France est en danger, c'est difficile à le dire, mais dans certaines régions, oui. Dans certaines configurations, oui.
En France ?
En France, dans certaines zones, dans certains quartiers. Et encore une fois, l'objectif, c'est de garder espoir. Et que quelle qu'il soit la possibilité pour le juif de partir ou de rester, on doit, nous, les représentants communautaires, s'assurer qu'ils vivent dans des conditions correctes. Tous les juifs de France ne pourront pas partir. C'est compliqué. Même si l'État d'Israël a fait beaucoup d'efforts pour faciliter la Aliyah, c'est pas encore suffisant. Mais en apprenant l'hébreu, mais en convertissant son diplôme qui soit applicable en Israël, mais en y allant régulièrement, peut-être en investissant, même si c'est très dur d'investir en Israël, alors qu'on habite encore en France, je pense qu'on prépare de mieux en mieux cette Aliyah qui jusqu'à présent était peut-être plus difficile.
D'accord. Vous êtes une organisation qui justement aide à l'Aliyah en installation ou...
Alors, il y a l'agent juif qui fait un job merveilleux, mais nous, on joue le rôle de facilitateur, forcément. On est très proche de l'agent juif et toutes les institutions, comme je dis, gouvernementales. L'objectif, il est d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés, comme j'expliquais pour ceux qui veulent partir en Israël. Mais on disait Mizrahi, c'est aussi organiser des conférences. On est souvent à Strasbourg pour le concours du Tanakh. Ouais. On a un magazine que j'ai amené d'ailleurs ici, en français, qu'on fait depuis peu, alors qu'avant c'était qu'en anglais. Il y a quand même quelques événements. Le directeur, vous connaissez bien, c'est M. Jean-Charles Zerbib, pour la France, donc il a fait un travail merveilleux par son passé. Et donc, évidemment, on essaye, nous aussi, de proposer ce lien avec Israël à tous les Juifs de France.
Concrètement, si on veut te rejoindre, on fait comment ?
Eh bien, c'est internet. C'est très simple, mizrahifrance@gmail.com. France@mizrahi.org. Alors, Mizrahi, ce n'est pas la banque, hein, je le précise, mais c'est Mizrahi. On a un site internet que sur Google, vous retrouverez.
C'est payant,
l'adhésion à Mizrahi est gratuite. L'adhésion à la fédération, c'est le shekel symbolique, 5 euros.
C'est
vraiment le shekel symbolique, c'est avec une charte qui dit ben, j'adhère au programme de Jérusalem, c'est-à-dire je suis sioniste. Et là encore, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hommes et femmes, adultes à partir de 18 ans, bien évidemment. Et l'objectif, il est vraiment de ne pas rentrer dans ces débats religieux, pas religieux, gauche-droite, qui parfois pourrissent le quotidien de l'État et de la société israélienne. Et nous, c'est notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'aider comme on peut aider.
En termes d'adhésion, tu espères combien ?
Moi, j'ai pas d'objectif particulier. C'est pas un business. Donc,
c'est un challenge.
C'est un challenge parce que le but, c'est de fédérer. Moïse n'a pas toujours réussi à l'époque. Moshe Rabbeinu, il a eu beaucoup de difficultés. Je n'ai pas la prétention de faire mieux, loin de moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'en appelle à tous les responsables communautaires, tous les juifs de France, pour essayer d'unir cette parole en son sein, même s'il y a une diversité dans le peuple juif. Et c'est encore une fois cette richesse qui fait le propre de nous-mêmes. Et de faire au mieux pour que, encore une fois, la France, en tout cas les juifs de France, soient entendus là où ils y vont.
Merci beaucoup, Isaac Versuchat, d'avoir fait le détour par nos studios. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je voulais aussi dire que j'ai eu le plaisir d'accompagner notre président. Enfin, moi, je suis franco-américain, mais président Trump. Et Kouchner est venu récemment, son ambassadeur à Strasbourg. Je l'ai vu la semaine dernière. Il a beaucoup, beaucoup apprécié la communauté juive de Strasbourg.
Il a envoyé un très beau message à la communauté il y a de cela quelques jours, en disant qu'il avait effectivement vécu ça avec beaucoup d'émotions et d'émotions parce qu'il a bien aimé la ville apparemment.
Oui, oui, mais bon, Strasbourg a beaucoup de qualités, sa communauté est bien structurée et elle vit, on va dire, dans un petit cocon assez correct et par rapport à d'autres villes. Donc oui, c'est une chance d'avoir eu...
Il a beaucoup apprécié la communauté, dit-on.
Oui, moi je l'ai vu jeudi dernier et donc on en a parlé et... J'ai même beaucoup apprécié parce qu'on était à l'ambassade, il y avait des centaines d'invités puisque on célébrait les 250 ans de l'amitié France-États-Unis. Il m'a dit dans l'oreille, tout est cachère, tu peux y aller. j'ai trouvé ça sympa et puis on a parlé un peu des communautés et lui, il est là clairement et, pour aider à protéger les intérêts de la communauté juive, combattre l'antisémitisme, ce qui n'est pas simple du tout et on voit que même président Trump, si on n'est peut-être pas d'accord sur tout, clairement, il parle de ces manifestations pro-palestiniennes, il parle de ces dérives dans les universités et autres. Là, on parle que même les Français qui ont un ESTA qui irait passer aux États-Unis quelques jours pourraient être sujets à une vérification de leurs publications sur les réseaux sociaux pour vérifier qu'il n'y a pas de publications anti-israéliennes ou antisémites. Et je trouve ça, moi, honorable que dans le monde dans lequel on vit, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec les dirigeants politiques, mais d'avoir des gens qui défendent Israël et notre cause et notre peuple, c'est très bien.
Alors, tu en parles. Alors, un mot, vraiment, un mot politique et de Trump. J'avais plusieurs journalistes qui me disaient que, finalement, personne ne sait très bien ou ne sait pas ce que fait Trump. Une fois, il est proche des pays arabes, une fois, il est proche d'Israël, une fois, il fait ceci, une fois... Où il va ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Moi, je trouve ça très marrant, parce que je suis souvent sur les plateaux télé, LCI et autres, et en off, tout le monde me dit « Trump extraordinaire », mais quand ils sont sur le plateau, il y a une posture un peu anti-Trump, ils ont du mal de plus en plus à la défendre. En réalité, c'est que les gens ne connaissent pas Trump. Trump, c'est quelqu'un qui a fait vraiment le tour du propriétaire, il est devenu riche, il a tout réussi dans sa vie. Aujourd'hui, il n'a qu'une envie, c'est de redresser ce pays des États-Unis, qui a été gangréné de l'intérieur durant l'ère Biden, et de faire au mieux pour qu'à l'international, ça se passe mieux et d'impacter le monde. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas la suite de l'histoire, mais concrètement, en 10 mois, parce qu'il a été rentré le 20 janvier, en 10 mois de présidence, ou 11 mois de présidence, il a fait quand même un travail colossal. Il a quand même arrêté cette guerre avec Gaza, où on a récupéré nos otages. Même Israël n'a pas été capable de le faire. Donc, la diplomatie...
Bravo Trump.
Moi, je pense qu'il faut avoir Akaratatov. Parce qu'il a clairement arrêté un massacre. Ça faisait 2 ans que c'était compliqué pour tout le monde. Je lisais des statistiques cette semaine qu'en Israël, les sondages disent qu'enfin, il y a une liberté, une vie qui revient un peu normale. Et ça, c'est très important pour nous aussi. Combien de manifestations pro-palestiniennes ? Alors, il y en a encore un petit peu, mais combien on en a connu dans toutes les villes de France ? Combien de difficultés on a eu pendant ces 2 ans ? Donc, rien que pour ça, moi, je trouve que tous les Juifs lui sont redevables. Après... je pense qu'il faut parler avec tout le monde, comme je l'ai dit, dans toutes les différentes strates. Il sait le faire. Après, c'est un businessman, forcément, donc il veut défendre les intérêts d'Américains et « Make America great again »,« America first ». Tout ça, ce sont des principes pour un politique qui sont nouveaux pour nous, parce que c'est enfin un politique qui applique son programme. Mais nous, juifs que nous sommes, on a même vu qu'il a reçu Mamdani, le nouveau maire élu de New York, où la communauté juive, hors les chassidiques, est inquiète. Il l'a reçu, il lui a fait comprendre que clairement, il ne fallait pas qu'il dévie énormément sa politique sur les juifs. Et il le recadre quand il faut le recadrer. Donc moi, je pense qu'il faut regarder le bon côté des choses. Il a mis en garde la France et l'Europe récemment sur plein de choses qui se passent en Europe. Je pense qu'il faut aussi écouter. Et l'Amérique, ce n'est pas pour rien que ce sont nos alliés. Ils sont venus nous aider en 39-45. Et je pense qu'on a besoin d'être en paix avec tout le monde.
Merci beaucoup, vous allez voir ce chat. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Je peux vous dire Mazal Tov aussi ?
Toujours.
Voilà. Merci beaucoup. Shabbat shalom à vous tous.